Bonjour à tous. Merci d'être là, tout le monde. J'espère que vous allez bien malgré toute la circulation ce matin qui vous a peut-être créé des maux de tête. On va essayer de vous alléger ça un peu avec nos sujets. On va parler d'erreurs de prix dans les magasins. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Moi, j'ai eu une petite anecdote que je vous raconterai tantôt en deuxième heure d'émission. Mais ça nous donnera l'occasion de repasser un peu les politiques de protection du consommateur. Vous savez que souvent, même dans les magasins, là, quand vous avez l'impression de vous faire avoir, ils connaissent même pas les politiques. Et des fois, ils vont vous dire okay, ben on va vous faire, on va vous donner le prix que vous pensez par courtoisie. Non, c'est la loi, c'est la loi. Il faut donc bien maîtriser ses droits. On va revenir là-dessus tout à l'heure avec quelqu'un d'Option Consommateur. Aussi parce qu'il y a dans l'actualité une histoire à Québec, une école où beaucoup d'élèves sont en sport-études. Et là, on a décidé finalement que on allait déplacer certains jeunes parce que on allait prioriser le sport-études. Le sport-études, c'est le fun, et il y a de plus en plus de parents dans les écoles publiques, d'ailleurs, qui privilégient ça parce qu'ils ont l'impression que c'est un meilleur cours, un meilleur programme pour leurs jeunes. Le problème, c'est que ça empêche les autres, qui sont peut-être moins bons, moins athlètes potentiels, ça les empêche d'avoir accès à des programmes sportifs qui pourraient peut-être empêcher qu'ils décrochent. Et tous les jeunes décrocheurs potentiels auraient vraiment avantage à faire beaucoup plus d'activités physiques. Je pense qu'il faut qu'on se leur dise à nouveau, au Québec, on ne privilégie pas assez le sport à l'école. Je pense qu'on a tous des exemples de ça, que ce soit des garçons ou les filles. Les jeunes mériteraient de faire beaucoup plus d'activités sportives, probablement qu'ils seraient des meilleurs étudiants, des meilleurs élèves. On va parler de ça tout à l'heure avec deux champions, dont un champion olympique, Brunie Surin, sera avec nous, Aline Nestor également, des Princes de la rue. Mais en première heure d'émission, je voulais revenir sur une statistique qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui nous a fait beaucoup sauter, nous, ici, avec l'équipe, parce que ça s'améliore pas. C'est le taux d'endettement des Québécois. Le ratio d'endettement est toujours à la hausse. Je sais pas si vous avez vu ça. Là, c'est sorti encore il y a quelques jours. Le ratio de la dette contractée sur le marché du crédit par rapport aux revenus disponibles des ménages. Ça sonne compliqué de même, mais ce que ça veut dire, c'est qu'on doit près de 1,70 $ pour chaque dollar de revenus qu'on a. Vous gagnez une pièce, vous en devez 1,70 $. On s'entend-tu que ça balance pas? C'est un gros problème. Puis on sait pas comment se le dire, finalement, à quel point c'est un gros problème. Puis des fois, peut-être que votre banquier vous le dit pas assez que c'est un gros problème, parce que les banquiers sont pas forcément là pour vous mettre dans le droit chemin, mais surtout pour vous vendre des produits bancaires. Et le problème, c'est qu'on se retrouve, à terme, avec des intérêts à payer sur des dettes, puis on s'en rend pas compte. Et qu'est-ce qui arrive? Bien, on n'arrive plus. On n'arrive plus et beaucoup de gens font faillite. Au Québec, entre autres, on apprenait il y a quelques jours, bien sûr, bon, que le taux d'endettement est encore à la hausse, malgré tout ce qu'on dit, mais aussi qu'un travailleur sur trois n'a pas de coussin financier. Mettons, là, vous avez un problème, là, votre boss ne peut pas vous donner une paye cette semaine. Ça arrive dans les PME, là. Des fois, dans les petites entreprises, le patron dit « Écoute, cette semaine, ça va être difficile. Ça te dérange-tu? Je vais te donner ton chèque la semaine prochaine. » Quand t'es chanceux, c'est une semaine plus tard. Puis quand t'es moins chanceux, c'est deux mois plus tard. Il y a un Québécois sur trois qui n'a pas de coussin, qui vit d'une paye à l'autre. Je sais pas si vous avez déjà... Vous savez, vous allez au guichet automatique, puis des fois, il y a des gens qui laissent traîner leur petit coupon. Moi, je suis toujours... Bon, je suis un peu voyeuse. J'ai déjà regardé combien il y avait dans leur solde. Des fois, écoute, ils ont 12 piastres, ils ont 40 piastres. Tu dis, oh mon Dieu, c'est pas drôle. C'est ça, la réalité. Pour en discuter, elle est planificatrice financière. Brigitte Ferck, c'est avec nous. Merci, Brigitte, d'être là.
Bon matin.
Ghislain Larochelle est auteur, coach en immobilier. Il est président d'Immo Facile. Merci, Ghislain, d'être là.
Merci, bon matin.
Évidemment, ce que je viens de dire, là, c'est la réalité, là, Brigitte.
Tout à fait. Tout à fait. On le voit au quotidien aussi dans ma pratique. On s'en aperçoit. Puis, je trouve ça intéressant d'être accompagné ce matin avec un spécialiste au niveau immobilier. Mais aussi, on remarque que la plus grosse dette des ménages, c'est aussi l'endettement hypothécaire.
Voilà, donc, c'est l'hypothèque, en fait.
Tout à fait.
C'est pour ça qu'on tenait à ce que Ghislain soit là, qui vient d'ailleurs d'écrire il n'y a pas longtemps que comment se loger sans trop s'endetter, parce que c'est rendu ça. La grosse dette des ménages, c'est le logement, et quand on est propriétaire, c'est l'hypothèque. C'est quoi la réalité en ce moment, Ghislain?
Qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent acheter, mais souvent, ils ne sont pas capables d'acheter, surtout avec les mises de fonds. Les immeubles augmentent de valeur. On a des duplex à 500 000, on en a déjà parlé, Isabelle.
Ouais.
Et qu'est-ce qui fait que les gens viennent nous voir, puis ils pensent qu'on a des solutions miracles pour eux autres? Fait que quand tu te présentes devant le banquier, t'as pas le choix, t'as besoin d'une mise de fonds. Ça vient pas de toi, faut qu'elle vienne de quelqu'un d'autre. Soit tes parents, soit de l'équité sur un autre immeuble ou d'autres investisseurs qui sont prêts à embarquer avec toi. Mais j'en vois toutes les semaines, j'en vois que on fait leur bilan avec eux autres, puis ils ont rien. Les revenus, l'actif moins le passif, il reste absolument rien avec l'endettement qu'ils ont partout.
Et c'est pour ça qu'il faut regarder, est-ce que c'est une bonne idée d'acheter? Est-ce qu'il vaut pas mieux louer des fois? En même temps, même les locataires ont de la misère à arriver, là.
Oui, tout à fait. Puis je trouve que c'est un bon point parce qu'on parle d'endettement et bien entendu, les compagnies prêteuses, les sociétés prêteuses vont parler de l'endettement bancaire. On parle de l'ABD, l'ATD, donc c'est un ratio d'endettement. Mais on parle de dette. Mais on ne parle pas du style de vie, des dépenses. Et c'est là que les ménages doivent s'asseoir, basés sur les calculs hypothécaires, pour voir est-ce que je vais être en mesure de rencontrer mes obligations, mais aussi mon mode de vie. Hein, si j'ai 3 enfants à la garderie, si j'ai des sports à payer pour les enfants, des dépenses de santé, peu importe les dépenses du ménage, il faut aussi en tenir compte. Et les sociétés prêteuses ne tiennent pas compte de ça parce que c'est la norme.
Ils regardent juste le revenu.
Le revenu et l'endettement.
Oui.
Donc, c'est normal aussi. Ce sont la législation qui est faite comme ça. Puis c'est tout à fait légitime. Par contre, les ménages doivent s'asseoir et faire le budget. C'est ce qu'on recommande aussi en planification financière. Mais on n'est pas tous accompagnés d'un planificateur financier. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut que les ménages fassent leurs devoirs à la maison aussi.
Ça vous surprend, ça, voir qu'une personne sur trois n'est pas capable d'honorer? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de coussin. Ils ont une paye, puis ils ont tout dépensé jusqu'à la prochaine paye.
Pas tellement.
Ça,
parce qu'est-ce que je vois dans mes rencontres? Il y en a beaucoup, beaucoup qui vivent d'une paye à l'autre. Puis là, je leur demande carrément, qu'est-ce qui fait que tu es rendu là? Et là, j'ai eu des problèmes financiers avec la carte de crédit. Là, des fois, c'est des divorces. Des fois, c'est j'ai fait un mauvais investissement qui, là, il me coûte 500 par mois. Faut que je me ressorte de là. C'est que il y a plusieurs raisons, mais une des raisons principales, c'est la surconsommation. C'est trop facile d'acheter maintenant. Tu es autorisé déjà d'avance pour bien des choses.
Brigitte?
C'est un fait. Puis il y a aussi beaucoup de travailleurs autonomes dont leur revenu est lié à la santé.
Ouais.
Vous parliez des faillites tout à l'heure. Il y a un haut taux de faillite aussi qui est dû justement au fait que les gens peuvent tomber en invalidité. Donc, c'est un fait aussi. C'est la raison pour laquelle de faire un tour d'horizon, voir c'est quoi la situation, puis de les accompagner avant de s'endetter. C'est aussi la meilleure solution. Là.
J'ai une dame qui m'écrit qui préfère que je garde son nom privé, appelons-la Monique. Et elle dit « Sincèrement, votre sujet d'aujourd'hui me touche particulièrement. Je suis monoparentale, aidante naturelle pour ma grande fille handicapée, sans pension ni aide financière, autre qu'un retour d'impôt à la fin de l'année. Je travaille 60 heures semaine. J'ai 2 emplois pour joindre à peine les 2 bouts. Je suis complètement à la merci de mes employeurs. J'ose pas demander d'augmentation de salaire. Ça fait 5 ans que j'ai le même salaire. Je fais des tâches supplémentaires de peur de me faire mettre à la porte. Évidemment, je suis pas syndiquée. Je vous dis ça. Elle nous écrit, ça me fait du bien de vous raconter ça, au moins. Puis je vous écoute. Mais c'est sûr, ce qu'elle dit, là, c'est exactement ça. Les gens, j'ai regardé hier le taux d'inflation. On parlait que l'inflation était de plus de 2 % là, cette année jusqu'à maintenant. Je regardais le fait qu'on nous annonçait qu'il y aurait une augmentation également des prix des aliments à nouveau cette année. Les gens qui ont eu 1 % là, d'augmentation du salaire, parce qu'on leur a dit juste à peu près l'inflation, puis qu'ils l'ont accepté parce que c'était ça, puis que tu n'oses pas. Il y a beaucoup de gens comme elle qui disent, ben là, je ne vais pas trop pousser le bouchon d'un coup, qui me disent, ben là, regarde, c'est fascinant parce qu'en même temps, on dirait qu'il y a 2 discours. On nous dit, mon Dieu, il n'y a pas d'employés, amener du monde, même puis tout le dossier de l'immigration, c'est ça, on a besoin des immigrants parce qu'on a besoin de bras. Puis en même temps, regardez ce qu'elle nous écrit. Moi, j'ai 2 jobs, je ne suis pas capable d'arriver, puis j'ai pas d'augmentation de salaire depuis 5 ans. Qu'est-ce qui se passe, là? Qui a raison? C'est quoi la vraie affaire, là? Puis je compte sur les auditeurs, là. Dites-moi qu'est-ce que vous vivez là-dessus aujourd'hui, parce que j'aimerais ça le savoir. Y a-t-il une crise de l'emploi? C'est-tu vrai qu'on n'a pas assez de monde ou les gens qu'on a, ils ont de la misère à se faire payer? J'aimerais ça le savoir. 514-790-9850 pour nous joindre. Ghislain La Rochelle.
C'est un peu l'insécurité financière qu'elle vit. Fait qu'elle n'ose pas demander une augmentation. Et on voit beaucoup de gens qui font du 8 à 5 et qui s'en vont travailleurs autonomes. Ils disent, au moins, moi, gérer mon salaire, moi, être capable d'avoir les revenus que je veux. Mais ils déchantent quand ils arrivent, puis travailleurs autonomes, là, il n'y a plus de salaire régulier qui rentre. Et on en voit beaucoup qui deviennent travailleurs autonomes, puis retournent travailler dans le 8 à 5 avec un emploi stable. J'en vois beaucoup, moi, dans ma pratique.
Ah, ouais?
Et toi, Brigitte?
Oui, tout à fait. Puis c'est sûr que, bon, en tant que planificateur financier, on va regarder aussi, il y a le moment présent, mais il y a aussi pour le futur. Et c'est très difficile pour les travailleurs autonomes de s'engager vers une vision vers leur futur pour la retraite parce que ça suppose aucun fonds de pension, ça suppose de mettre des épargnes de côté alors qu'ils bâtissent vraiment leur carrière. Alors, il y a tout un enjeu par rapport à ça. Et donc, oui, effectivement, c'est extrêmement important d'être accompagné puis de regarder ces enjeux-là.
Mais moi, j'ai l'impression qu'on touche juste le début de quelque chose qui va finir par être grave parce que au Québec, on le sait en plus, c'est moins pire. Quand je disais une personne sur trois qui vit d'une paye à l'autre, vous savez que c'est... Là, la nouvelle référence au Québec, je me plais à rire un peu de ça parce que ça me fait tellement rire qu'on compare le Québec à l'Ontario. C'est comme comparer des pommes et des oranges. Êtes-vous d'accord? En Ontario, pour y avoir vécu 5 ans, il y a longtemps, mais quand même, ça a juste empiré depuis. Les gens payent peut-être un peu moins d'impôts. Peut-être que quand tu vas voir ton médecin, t'attends peut-être un peu moins. Puis les gens qui vont à Hawkesbury le disent, mais n'empêche que t'as des coûts beaucoup plus importants pour te loger, pour la bouffe. Parler à des gens qui vivent là-bas, là, un logement, là, c'est 1 500 $ à Toronto. Là. T'es obligé de le partager, c'est sûr. Les garderies, puis c'est un cocheron, là. T'as pas, c'est pas une super maison, là. C'est un cocheron à Toronto, des fois même excentré. C'est cher vivre là-bas, là. Puis il y a du trafic, autant sinon plus qu'ici. La dernière fois que je suis allée à Mississauga, je me disais, mon Dieu, que j'ai hâte de revenir au Québec, là. Fait qu'on se compare à l'Ontario. Je veux vraiment pas que ça soit notre référence parce qu'on veut pas être comme les Ontariens. Mais, et puis la preuve, c'est que là-bas, c'est pas une personne sur trois qui vit d'une paye à l'autre. C'est une personne sur deux. C'est encore pire qu'ici. Mm-hmm.
Puis ils ont pas les garderies à 5 $ ou 10 $ comme
c'est
nous autres.
C'est rendu 7.
7, excuse-moi. C'est longtemps qu'il n'y a pas d'enfants à la garderie.
Il y a des ados, hein? Vous avez
ouais,
des ados.
Exact.
Mais tu sais, et ce que j'allais dire là-dessus, c'est qu'au Québec, on le sait, il y a encore pas mal de monde qui ont des régimes de retraite. Tu parlais de retraite,
ouais.
Brigitte. Il y a encore beaucoup de monde qui ont un régime de retraite à prestations déterminées. Il y a encore beaucoup de compagnies qui offrent ça. Mais je veux dire, les jeunes, nos enfants, là... Ils n'auront plus ça, là.
Tout à fait. La plupart des compagnies vont se retourner vers plutôt la cotisation déterminée, effectivement.
Puis si on est tous travailleurs autonomes, c'est clair que tu n'as pas ça non plus.
C'est clair, effectivement. D'où l'importance de vraiment en prendre conscience. Mais je vais vous dire, pour discuter avec plusieurs de mes clients dans le passé aussi, c'est que quand on est justement dans une situation comme ça, on regardera pas en avant ou dans 10 années. Ce qui nous préoccupe, c'est vraiment le moment présent. Alors, le dernier souci pour ces gens-là, c'est vraiment la retraite.
Puis tellement vrai, j'ai Pierre qui m'écrit, ma nouvelle conjointe de 50 ans, il dit, elle fait 80 000 bruts. Elle a presque 30 000 de dettes sur sa marge de crédit, et sa carte de crédit. Elle s'est rendue là en se disant, depuis qu'elle a 20 ans, c'est ce que tu dis, Brigitte, qu'elle doit profiter de la vie. Elle veut pas attendre la retraite, la maladie ou la mort pour se dire, mon Dieu, j'aurais donc dû. Fait qu'elle vit au jour le jour, mais elle arrive jamais à repayer ses dettes. Et ça, on est-tu d'accord? C'est très québécois.
Ben oui, c'est exactement.
On se dit, hey, garde.
Exact.
Aussi bien vivre
puis,
tout de suite.
J'ai un cas, moi, que le couple gagnait 230 000 par
bien,
année,
wow.
Deux directeurs. Et quand je les rencontre, j'ai dit, vous avez combien de REER? Zéro. Et vous avez combien d'argent de côté pour investir en immobilier? Ben, ils me disent zéro. Ils disent, qu'est-ce que vous faites avec votre argent?
Oui, qu'est-ce qu'ils font?
Ben, on va 5 à 7 fois avec la famille au restaurant par semaine.
Ah.
On fait 2 à 3 voyages par année. On a 2 autos neuves. On a une grosse maison. Fait qu'ils font, qu'est-ce qui rentre? Ressort automatiquement à la fin de la semaine. Et c'est des gros salariés, là. C'est pas des gens qui gagnent 25 000 par année.
C'est
là.
Des directeurs de?
D'école.
Au palais!
Ouais. Un directeur d'école, puis un directeur d'un magasin.
C'est peut-être parce qu'ils gèrent les écoles comme ça. Vous savez que tu as des budgets, puis si tu ne dépenses pas, ils les enlèvent.
Oui.
Peut-être qu'ils se disent, on va gérer notre couple pareil. On va aller à la pause là-dessus. Nos lignes sont pleines. Je pense que vous voulez nous dire beaucoup de choses là-dessus. Justement, est-ce que vous êtes du genre, êtes-vous comme un Québécois sur trois, c'est-à-dire que vous vivez d'une paye à l'autre, pas de coussin financier. Vous vous dites, hey, advienne que pourra. Mais tu sais, il y a tellement de monde malade ou qui voit les autres malades qui se disent, hey, moi, la journée où je vais avoir une maladie, là, je vais avoir vécu avant. Là. Puis je pense qu'il y a de plus en plus de ça. C'est peut-être notre mentalité, c'est peut-être l'hiver qui est plus dur, qu'on se dit, regarde, on va en profiter tout de suite. Je sais pas, vous me direz, il y a aussi la difficulté peut-être aussi du marché du travail. En même temps, on nous dit, il y a une pénurie d'emplois. Puis en même temps, ben on n'ose pas dire à notre employeur qu'on mérite plus que ce qu'on a. Il y a tout ça, c'est pas simple. 514-790-9850. Sans frais, vous pouvez nous joindre en faisant le 1-866-790-9850. On a un gros sujet ce matin parce qu'on s'inquiète de notre situation financière. On se dit, écoute, il y a un Québécois sur trois qui vit d'une paye à l'autre. Puis là, je vous demande, si vous perdez votre emploi, seriez-vous capable de payer vos factures? Sylvain, bonjour. Merci de nous appeler. Les gens peuvent le faire au 514-790-9850. C'est quoi votre réaction par rapport à tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant avec mes invités?
D'abord, bonjour à tous. Moi, ce que je voulais dire, c'est au sujet du manque de main-d'œuvre qu'il y a présentement. Je diviserais ça en trois bouts. Le premier bout du salaire minimum à 15 $ de l'heure, où est-ce qu'il manque de toute évidence des gens? Et puis dans les emplois spécialisés aussi qui manquent de la main-d'œuvre. Dans le centre, les jobs à 17-20 $ de l'heure qui n'ont pas besoin trop de connaissances sont pris, ces jobs-là. Il n'y a pas de manque. Donc, comme la dame, vous parliez de la dame tantôt qui est obligée de travailler à deux jobs, bien, un job à 20 $ de l'heure est difficile à avoir. Elle n'existe pas au moment qu'on se parle.
Ouais. Et le problème, c'est ce que beaucoup de gens disent par rapport aux 15 $ de l'heure, c'est que ceux qui aujourd'hui font 17, 18, ils vont dire, hey, moi, j'aimerais ça avoir 20, là, si moi. Mais c'est ça la difficulté. Il y a effectivement ce problème.
C'est de toute évidence. Ouais.
C'est normal. Tout à fait. Sinon, c'est une perte. Sinon, tu te trouves à baisser de salaire sans le vouloir. Merci.
C'est un peu ça.
Merci. Bonjour, Fernand. Votre opinion là-dessus?
Bonjour, oui, je vais faire ça vite parce que je vais lancer des points à vos invités.
Oui.
Oui, moi, je suis dans le domaine du transport. Puis oui, on voit des demandes d'emploi partout. Les salaires sont ridicules. Ah, ouais. Les places qu'on va livrer ou on va ramasser, c'est ridicule. Partout, ce qui manque d'employés, c'est des salaires ridicules. Les bannières qu'il y a partout, que nous embauchons, les gens me disent, oui, il y a des bannières partout, mais quand on va donner notre nom, c'est tout de suite qu'on a besoin d'un emploi. Puis les compagnies nous disent, on a mis la bannière, c'est parce qu'on fait des banques de noms.
Ouais.
Et un dernier point pour un de vos invités, c'est comment se fait que les fiscalistes, ma femme et moi, on a des amis, plusieurs amis que ça donne comme ça, sont millionnaires. Puis leur fiscaliste, à eux, c'est drôle, il les prépare déjà à dire « Vendez votre troisième ou quatrième maison à quelque part dans le monde, parce que 2020 à 2025, ça va être pire que qu'est-ce qui est arrivé en 2008. » Comment se fait que le commun des mortels, la classe moyenne, comme les gens s'amusent à dire, comment se fait qu'ils
ne sont pas au courant? Ben en fait, c'est intéressant ce que vous dites. Je ne sais pas, 2025, puis la maison à l'étranger, mais une chose est sûre, puis c'est drôle, j'en parlais avec mes invités pendant la pause. Il faut se tenir un peu au courant. Puis je pense qu'une partie du problème de notre endettement, c'est qu'on ne fait pas nos devoirs comme citoyens qui a de l'argent quand même à disposition parce qu'on travaille, on a un revenu. C'est qu'on ne lit pas, on n'a pas de... Le manque de littératie financière au Québec, c'est un vrai problème. On n'enseigne pas ça à nos jeunes avant secondaire 5. Ils ont 16 ans. C'est déjà des consommateurs. C'est trop tard. Êtes-vous d'accord, Brigitte, Ghislain?
Ah oui, puis on a des ados tous les deux. En fait, moi, j'ai commencé très, très tôt à inculquer, en fait, la valeur de l'argent à mon fils. Et mon père a fait la même chose avec moi. Et on parlait hors d'onde tantôt. La première paye que j'ai eue, c'était 16 $. Et mon père a dit, ben tu mets 8 $ de côté. Et que je trouvais complètement ridicule alors que mes amis sortaient et s'habillaient et avaient des voitures. Moi, j'épargnais. Puis je pense que c'est toute une question de choix.
Mais t'étais vue probablement comme quelqu'un de plate.
Oh, tout à fait. Ah oui, j'étais plate. J'étais vraiment plate, mais ça m'a permis d'acquérir une maison très jeune et acheter mon véhicule et tout ça. Mais en fait, je pense que ce qu'on retient, c'est oui, effectivement, on manque d'informations, mais aussi c'est toute une question de choix. Et aussi, bon, quand on veut faire un budget puis qu'on veut s'y attarder, ben on se rend compte aussi de regarder c'est quoi nos dépenses. Quand on voit qu'on a peut-être de la difficulté à arriver, c'est peut-être de regarder le nombre de cafés qu'on va prendre ou qu'on va s'acheter dans une journée. Est-ce qu'on paye toujours pour nos lunchs? C'est des petits pas au quotidien qui peuvent
En même temps, ce que Fernand voulait nous dire, c'est que les riches ont des bons conseillers ou en tout cas les moyens de s'en payer, puis ceux qui ont moins d'argent, ben ils passent après, puis il n'y a pas tort.
En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les institutions financières, vous pouvez être accompagné, peu importe l'argent que vous avez, mais il y a aussi des outils en ligne.
Oui, mais Brigitte, si t'es banque privée à la RBC ou ailleurs, ou à la Banque nationale, tu as un meilleur service parce que tu le payes que si tu as un petit compte d'épargne qui leur rapporte 4 $ par mois, tu comprends?
En fait, c'est intéressant.
La réponse est oui, ici. N'est-ce pas?
Les besoins sont peut-être plus complexes aussi pour les gens qui sont peut-être millionnaires.
Non, mais c'est ça pareil. Mais c'est plus complexe, c'est qu'ils sont plus payants.
ils ont des structures plus complexes parce que le monsieur parlait de fiscalité tout à l'heure. Mais ce que je veux vous dire, c'est que...
Mais Ghislain va être d'accord avec moi.
Moi, je suis d'accord avec toi.
Merci. Parce que elle ne dira pas, Mme Herbezier, mais toi, tu peux dire, Ghislain.
Parce que les grandes banques, quand on a beaucoup d'argent qu'on va investir...
Ça déroule le tapis, mon ami.
On a fiscaliste, le notaire, et je l'ai vu.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, là, tu sais?
Exactement. Mon frère est décédé. Il y avait plusieurs immeubles qu'il a laissés. Et les banques étaient en avant de nous autres pour nous aider planifier avec les notaires. Ça a pris un an pour faire le total.
C'est clair.
Puis je vais vous dire aussi...
C'est une business, là. Ouais, c'est pas pour cracher dessus. C'est une industrie, c'est une business. Puis visiblement payante.
Puis si on parle par rapport à cet exemple-là, si on parle des milléniaux qui sont beaucoup plus jeunes, qui n'ont peut-être pas un patrimoine aussi établi par rapport à cet exemple de banque privée et de gestion de patrimoine privé, ils sont très bien accompagnés justement parce qu'on veut s'établir dans la vie et les conseillers vont leur établir un plan de match. Encore faut-il s'ouvrir à savoir c'est quoi mes objectifs?
Écoute, mais tellement, tellement vrai. Monsieur, remarque, ça a toujours été. Moi, je me souviens à l'époque, c'était pareil. T'sais, quelqu'un qui veut aller en médecine aujourd'hui, peut avoir un prêt, là. À 20 ans, tu peux avoir un prêt si tu es en médecine ou si tu t'en vas en droit ou si tu t'en vas en ingénierie. Si tu t'en vas en travail social...
Pas sûr de tu vas avoir un prêt.
Pas sûr qu'ils vont te prêter de l'argent, tu comprends?
Juste hier, j'ai rencontré 3 étudiants en médecine. Ils commencent la médecine et il y a une banque qui leur prête une marge de crédit de 350 000 chacun.
C'est sûr, ils savent qu'ils vont se faire payer dans Ruby sur Long.
Exactement.
On a Alexandre avec nous. Bonjour, Alexandre. Êtes-vous étudiant en médecine?
Non, je suis prêt d'être un médecin. Je prépare des voitures à la place.
Ah, ben c'est correct. C'est bien correct, il en faut.
Ben, moi, ça va faire à peu près 12 ans que je travaille dans le véhicule automobile. Puis on n'a vraiment pas été. T'sais, on n'a pas des gros salaires. Mais je me suis tout le temps fait dire par mon père, si tu n'as pas l'argent pour t'acheter quelque chose, achète-les pas.
Ouais.
Je vois mes amis s'endetter avec des véhicules à 300-400 $ par mois,
ouais,
qu'ils ne sont pas capables de payer l'entretien. Moi, avant de m'acheter un véhicule, si j'ai pas l'argent pour l'acheter, je ne l'achète pas. Puis je fais ça même à la maison. Une grosse télé, je ne le paye pas si j'ai pas l'argent pour. Il y en a qui se mettent tout à crédit. Le crédit est rendu trop facile maintenant, je crois, pour les jeunes. Ça, c'est un gros problème. Puis les maisons, j'en ai une maison, ça va faire 8 ans que j'ai une maison, puis je gagnais 17 $ de l'heure, puis j'ai réussi à me l'acheter, ma maison, mais j'ai pas de cadre. J'ai été 8 ans sans avoir le cadre dedans pour pouvoir arriver, parce que je trouve que c'est du luxe avoir le cadre, ou ainsi de suite, d'autres affaires. J'écoute la radio à la place.
Oh, vous faites bien! Vous faites bien!
Mais le monde, ils s'endettent, ils veulent tout avoir, impressionner le voisin souvent. C'est ça le problème des jeunes.
Vous l'avez acheté où, votre maison, Alexandre? Elle n'est pas à Montréal, j'imagine, elle n'est pas dans les grands centres?
Non, mais regarde, j'habite à Repentigny puis je suis sur le bord de l'eau.
Ah,
je peux te dire que j'ai quand même une belle maison sur le bord de l'eau.
Mais
c'est pas un château, mais je suis capable d'arriver puis je suis heureux avec ça. Mais il y a du monde que je vois, mes amis, des maisons à 350 000. Il n'y a pas de meubles dedans, il n'y a rien. Ils sont à côté au cou, pas de voyage. Tu sais, si tu trouves ça plate, je pense que les jeunes, même les plus vieux, ils veulent tout le temps impressionner puis le crédit est trop facile aussi.
Merci beaucoup, Alexandre. Merci beaucoup. Brigitte, Ghislain, rapidement.
Ça m'interpelle beaucoup. Parce qu'en fait, c'est au quotidien. J'aime beaucoup la présence d'Alexandre qui nous mentionne exactement sa réalité. Et ça reflète vraiment la réalité de plusieurs personnes aussi. Et on parle
le fait de
ne
pas avoir de meubles dans sa maison, t'es pas capable de payer. Non, mais c'est
Parce
que c'est pas tout le monde qui est comme lui, là.
Tout à fait. Ouais. Et puis, quand on se fait qualifier, puis je pense qu'on peut en parler longtemps, quand on se fait préqualifier, basé sur l'endettement, et qu'on nous dit qu'on est capable d'aller chercher un prêt hypothécaire de 500 000 et qu'on n'a jamais estimé c'est quoi, justement, notre façon d'être capable de rembourser notre dette, ça revient à ce qu'Alexandre mentionne, qu'il faut faire nos devoirs, puis il faut faire des choix aussi, bons choix.
Il faut jamais aller au maximum de qu'est-ce qu'on peut aller chercher, parce qu'il faut se garder une marge de manœuvre, surtout avec la maison. Il arrive quelque chose, le toit coule, peu importe.
Les intérêts augmentent, comme là, c'est ça qui nous pend au nez, là.
Exactement. Fait que là, c'est parfait, il prend un taux d'intérêt bas, mais dans 5 ans, il va t'accompagner le taux d'intérêt.
Mm.
On ne le sait pas, puis d'après moi, il descendra pas, il va monter.
C'est
puis la réflexion aussi, c'est est-ce que je peux juste payer ma dette puis pas vivre? On parlait, il mentionnait, son ami ne peut pas prendre de vacances. Est-ce que c'est vraiment ça, la vie, de juste payer ses dettes puis de pas du tout être en mesure d'avoir une vie sociale ou une vie familiale?
Tout à fait. On va s'arrêter ici. On continue avec les commentaires de nos auditeurs tout de suite après ceci. Restez là. On parle de l'endettement, on parle du fait qu'il y a un Québécois sur 3 qui vit d'une paye à l'autre. Bonjour André.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette situation-là? Avez-vous de la misère? Est-ce que si vous aviez un coup dur, seriez-vous capable quand même d'honorer vos factures?
Oui. Pour un petit bout, hein, de gros.
Non.
Mais, tu sais, quand tu gagnes 100 000 par année, puis tu as 1 % d'augmentation, là, c'est 100 000, là, et tu t'en gagnes 15 000, 1 % là, c'est pas mal plus petit, là.
Ah oui?
Puis quand tu arrêtes une voiture, puis tu t'assis devant le vendeur, puis tu dis, c'est quoi le budget? Ils veulent l'accoter, c'est sûr. Ouais. Ils t'ont pas passé dans le bureau du directeur financier qui veut te vendre une garantie pour ça, puis une assurance pour ça, puis une assurance pour ça.
Ouais.
Fait que, tu sais, puis c'est un peu. Les patrons, là, c'est un peu comme les politiciens. Quand tu arrives à la veille de ton contrat, ils n'ont pas d'argent. Puis quand un coup, tu as signé, paye.
Ouais.
Les fleurs s'envolent partout, ils s'arrêtent des véhicules neufs. Puis,
ouais. Merci.
Ben oui.
Merci beaucoup, André. Bonjour, Janine.
Bonjour, Mme Maréchal. Félicitations à votre émission ainsi qu'à toute l'équipe et bon retour au travail.
Merci.
Alors, moi, je suis une dame de 65 ans. Je suis infirmière en milieu CLSC. Et ça fait plusieurs années, ça fait plus de 20 ans là, que je suis infirmière. Je suis à la fin. Normalement, je devrais prendre ma retraite cette année, mais j'ai décidé que si je prenais ma retraite l'année prochaine,
ouais,
dans 10 mois, effectivement, alors, à ce moment-là, tous mes dettes sont payées. Moi, je pars à ma retraite claire avec mes pensions. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose qu'en milieu CLSC, là, moi, je me souviens d'un temps qu'on travaillait 5 heures auprès des usagers et 2 heures à faire de la papeterie.
Mm-hmm.
Maintenant, c'est 5 heures de papeterie et 2 heures avec les usagers.
Ah, ouais.
Donc,
La paperasse, vous voulez dire, de l'administratif, vous voulez dire, hein, c'est ça?
Oui, oui, ouais. On est dans les statistiques parce qu'il faut que ça paraisse bien. Il faut écrire tout à la virgule près de comment le client s'est levé.
Vous nourrissez, vous êtes obligé de nourrir la bureaucratie, puis vous n'avez pas le temps de soigner du monde ou de traiter des gens.
Exactement. Ouais, mais ouais, je vais vous dire quelque chose. Tous les infirmières, il y a beaucoup d'infirmières qui s'enregistrent pour travailler.
Mmh.
Et puis, je vais vous dire, on est en manque d'infirmières en milieu CLSC. Pourquoi? Parce qu'on les garde pas. Pourquoi? Parce qu'au lieu de leur donner une route normale de, mettons, une complémentaire, c'est une personne qui vient nous aider, là, elle a fait juste les traitements, si on peut dire. Au lieu de lui donner quelque chose comme 6 à 8 clients, on lui en donne 10. Alors, les filles sont fatiguées, ils sont tannées de manger dans leur retour entre 2 clients. Pas de temps pour être capable de dire là, on va relaxer ou quoi que ce soit. Donc, à ce moment-là, la surcharge de travail, il y en a beaucoup même d'entre elles qui se réorientent.
Ouais,
et bien que j'enseigne aussi présentement à des stagiaires, je dois vous dire que moi, personnellement, là, si j'avais 10 ans ou 15 ans de moins, je laisserais ma profession puis je m'en irais vers autre chose.
Ouais.
Et je suis une excellente infirmière. Mmh.
On reviendra sans doute sur la question de CLSC. Il y a vraiment beaucoup à dire là-dessus, là, c'est sûr. Merci beaucoup, Janine. Normand, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute, Normand.
En fait, moi, c'est simple. J'ai travaillé dans l'automobile comme vendeur pendant plusieurs années.
Mmh.
Et puis, je gagnais près de 80 000 $ par année, puis ça s'en allait en s'améliorant. À un moment donné, notre patron, il dit, les gars, la récession s'en vient. Il dit, on est obligé de couper vos salaires. Fait qu'ils ont coupé nos salaires, moi j'ai fait le calcul, là, de 33%. Donc, je perdais 24 000 $ ou à peu près par année.
Wow.
Et tout ça, je ne sais pas si c'est une volonté politique, où on dirait qu'ils veulent vraiment diviser les gens, parce que quand tu gagnes 80 ou 100 000 $ par année, ben, tu fais partie de la classe moyenne. Et là, ben, tu descends comme ça. Nous autres, à ce moment-là, on travaillait 5 jours semaine, 12 heures par jour. Et maintenant, ben, ils ont ouvert les fins de semaine. Fait que, donc, ils demandent plus d'employés. Tu t'en vas dans... Je suis encore dans l'automobile, mais pas comme vendeur.
Ouais.
Et je fais encore des relations. Et en 96, on vendait, mettons, 1100 véhicules par année. On était 3 vendeurs. Maintenant, ils sont 6 vendeurs et ils vendent le même nombre de véhicules. Fait que donc, ça s'en va en baissant, là, tu sais.
Ah non, c'est sûr. Merci beaucoup. Merci bien. Brigitte Fex?
Il y a des points intéressants dans le cas de Mme Janine et M. Normand que j'ai noté. En fait, pour Mme Janine, qui disait qu'elle a décidé d'attendre quelques mois avant de prendre sa retraite parce qu'elle a fait les calculs puis elle s'est dit, moi, je veux partir avec en n'ayant aucune dette. Elle s'est fait ce qu'on appelle une forme de plan. Et quand on parle de se faire de la planification, c'est pas nécessairement de la planification complexe, mais au moins de s'asseoir puis de figurer quelle est la situation, puis regarder c'est quoi la situation la plus avantageuse pour ce qui est de M. Normand. Ça touche un sujet qui est quand même intéressant dans le cas où est-ce qu'on a des augmentations salariales, par exemple. Et donc, si on a une augmentation salariale, souvent, on va aller s'endetter plus parce qu'on a une augmentation, parce qu'on a des salaires accrus et donc notre style de vie augmente. Pourquoi tout simplement se baser, on en parlait tantôt, sur peut-être un style de vie raisonnable. Et si j'ai des augmentations salariales, de mettre de côté. C'est très triste la situation de M. Normand qui dit qu'il a dû vivre la coupure de son salaire. Ben et ouais. Combien d'autres personnes qui ont vécu ça aussi. Mmh. Alors, avec une augmentation salariale ou un style de vie qui est beaucoup plus raisonnable, je peux mettre des épargnes de côté pour contrer ces situations-là.
Là, je pense qu'on est rendu en mode solution. Beaucoup de questions de gens qui m'écrivent à isabelle@985fm.ca qui demandent des conseils. OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que je pense qu'ils vous ont écouté, ils entendent les témoignages de nos auditeurs. Et tu vois, par exemple, il y a Linda qui me dit dans les banques, il y a beaucoup trop de roulements de personnel, puis il n'y a pas forcément des gens toujours qualifiés. Elle dit que sa fille est allée ouvrir un régime d'épargne-études. Je lui avais fait une sélection de fonds commun. Le conseiller n'était même pas en mesure de la conseiller adéquatement. C'est le directeur qui, finalement, est venu à sa rescousse. Alors, imaginez, si les conseillers ne savent pas comment conseiller les gens, comment voulez-vous que nous, on y arrive? Est-ce qu'il y a aussi d'autres gens qui disent, est-ce qu'il y a des sites, est-ce qu'il y a des outils pour nous permettre de mieux conseiller nos jeunes, puisqu'on parlait du manque de littératie financière, Brigitte, peut-être?
Oui, tout à fait. Bien, ça touche différents points. Je questionnerai pas tous les roulements au niveau des institutions bancaires, mais on est là aujourd'hui pour donner quelques outils. Puis sur n'importe quel site bancaire, vous pourrez retrouver aussi, par exemple, on a des outils pour la budgétisation, en fait, comment faire un budget. On a une application comme chez RBC qui s'appelle Nomi, N-O-M-I, pour tout ce qui est comment... C'est des applications mobiles, puis qu'on peut faire des alertes, on peut voir à la minute près qu'est-ce qu'on dépense aussi. Ce sont tous de très bons outils, mais si on regarde au début, c'est peut-être de faire des petits pas aussi, de connaître sa situation. Je pense qu'on est d'accord avec ça, à savoir...
Les gens veulent savoir comment faire un budget, là. Isabelle, elle me dit, moi, j'aimerais ça. Y a-t-il un endroit où je peux trouver un site, peut-être, là, pour mes jeunes adultes, pour leur dire, OK, garde, voici, là, c'est comme ça que tu fais un bon budget. Qui veut répondre à ça? Ghislain?
Il y a la CEF qui est disponible, qui est gratuit, qu'on a accès assez facilement pour être capable d'avoir un budget. Moi, avec mes enfants, j'ai commencé jeune, à l'âge de 18 ans. Qu'est-ce que je fais avec eux autres? On s'en va en banque, on prend une carte de crédit. C'est la façon que j'ai trouvée pour les habituer à être capable d'être disciplinés.
C'est-tu toi qui appelles?
Non, c'est pas moi qui paye. Ils ont 18 ans, ils ont le droit à 500 $. Et qu'est-ce que ça a fait? C'est ça a fait qu'ils ont compris le principe du crédit, comment ça fonctionne, leur code de crédit. Et à 20 ans, ma plus vieille a acheté sa maison. Pourquoi? Parce qu'elle a développé sa cote de crédit. Et les premiers mois, c'est sûr qu'on s'assure qu'ils vont payer la carte de crédit. Mais ils apprennent à utiliser la carte de crédit avec ça. 18 ans, tous mes enfants passent par là.
Ah, c'est important de leur dire que c'est pas une carte de guichet automatique.
Oui, exactement.
Tout à fait.
Sur la plupart des sites d'institutions financières, vous allez avoir des calculatrices de budget aussi. Donc, peu importe avec quelle institution financière vous faites affaire, vous allez dans le site et puis vous allez retrouver des calculatrices qui vont vous aider à faire votre budget.
Ouais. On revient tout de suite après la pause. Si vous avez des questions justement là-dessus, n'hésitez pas pour nos invités, Ghislain Larochelle et Brigitte Fergue. Ça tout de suite tout le monde. Bonjour Alexis.
Oui, bonjour Isabelle, ça va bien?
Ça va très bien. Vous êtes un jeune, j'ai l'impression, avez-vous...
Oui, exactement. Ben moi, j'ai 19 ans.
Oui.
Puis j'étudie en finance et en assurance au cégep. Puis moi, dans le fond, je voulais parler par rapport à ma génération, les jeunes, là, pour une situation, en fait.
Oui, allez-y, on vous écoute.
Donc, dans le fond, là, ben là, c'est sûr, je ne parlerai pas pour moi parce que moi, je suis une situation à part, là, j'ai appris à gérer mon argent et tout par moi-même, puis mon parcours, en tout cas, on n'en parlera pas, mais donc pour ce qui est des jeunes en ce moment, là, c'est sûr, pour ce qui est des crises économiques et tout, dans nos cours, on en parle beaucoup. Puis avec, comme on parlait tantôt, là, pour ce qui est de l'épargne, oui, en effet, le monde n'épargne pas beaucoup. Puis les jeunes, eux, ils aiment beaucoup ça, voyager. c'est sûr, il y en a qui aiment mieux économiser aussi, mais plus le voyage, puis aussi avoir des beaux vêtements et tout, la consommation en tant que telle, puis servir plus tard que là, il n'y a plus d'épargne, donc c'est plus dur en tant que telle, là.
Non, tout à fait. Est-ce que vous diriez en général que les jeunes qui vous entourent ont un peu de difficulté à avoir cette valeur de l'argent? On leur a comme pas inculqué, là?
Ouais, ben disons quand je sors avec des amis, moi j'essaie d'être raisonnable souvent, mais il y en a qui ont moins de limites, puis là après ça, d'autres sorties, il y en a qui ont moins d'argent, donc...
Mais tu sais, des fois, moi, je me demande, il y a beaucoup de jeunes là, qui dépensent des 200, 250 $ pour aller voir des spectacles. Tu sais, il y a ce soir, il y a Paul McCartney, je veux dire, ça coûte pas 2$ les billets. Là. Puis c'est ouais, pas ben, juste des. Ça va pas juste être des baby boomers qui vont y aller, là. Mais il y a d'autres concerts, je veux dire, c'est coûteux, là, tu sais. Il y en a beaucoup qui vont manger au restaurant. On parlait de ça pendant la pause, c'est drôle là, qu'on parle de ça maintenant, mais. Les jeunes et leur resto, c'est vraiment une grosse dépense. Là. Puis des fois, à 14, 15, 16 ans, ça fait une pression sur les parents. Vous remarquez ça aussi autour de vous?
Ben, pour ce qui est des restaurants, oui. Surtout là, au cégep en tant que tel, la cafétéria du cégep, là, c'est sûr, la nourriture est variée. Puis il y a des bonnes choses, mais c'est relativement cher.
Ouais.
Mais le monde n'amène pas de lunch quand même. Ils décident d'aller quand même acheter, même si c'est plus cher à l'épicerie d'en face. Là.
C'est sûr. Merci beaucoup. Merci bien. Charles, bonjour.
Bonjour. Moi, j'ai un autre côté de la médaille que je pourrais vous donner.
Allez-y.
Moi, je suis camionneur, puis je fais des États-Unis puis du Canada. Fait que je vois pas mal toutes les provinces puis les États.
Mm-hmm.
Puis au Québec, on est surtout, je ne sais pas si on est vraiment endetté ou carrément étouffé. Je vais m'expliquer. Notre taux d'imposition est supérieur à partout en Amérique du Nord. Le taux de taxe de vente est supérieur.
Ouais.
Le gaz coûte une fortune. Pas moyen d'acheter une bouteille de vin en bas de 15$. Tout nous coûte cher.
Mm.
Alors, tu travailles, il t'en reste moins.
Mm.
Fait que là, tu te dis, ben là, si tu veux pas t'endetter, ben là, tu travailles 80 heures, mais tu m'as acheté un bazou. Une maison, puis je vais rester chez nous, puis je n'irai pas dans le sud parce que je veux pas m'endetter.
Hey, dis de même, on a tellement hâte de se lever le matin. Hein?
Ben, je me dis que. Parce que je parle souvent avec des camionneurs d'autres États, puis ils gagnent pas plus cher que moi. Mais fiscalement parlant, puis le coût de la vie alentour de chez eux est beaucoup plus bas.
Ouais.
Alors, si eux autres réussissent à se ramasser 1 500 ou 2 000 à la fin de l'année, puis que moi, ben, moi, je l'ai dépensé en achetant les mêmes choses qu'eux, ça se peut qu'à un moment donné, il y ait du monde qui s'endette.
Ouais, non, vous avez raison. C'est vrai qu'il y a aussi notre situation fiscale ici au Québec, là. Tout à fait.
Puis, quand c'est le temps de donner, tu sais, pour le Noël du pauvre et tout ça, il y a souvent des statistiques qui disent que le Québec est plus cheap que les autres provinces, puis tout, qu'on donne moins. Ben moi, je serais curieux de savoir, prenez tout ce qu'on donne là en impôts aux pauvres, puis additionnez ça aux dons qu'il y a au Québec. Puis d'après moi, il y a du monde qui pourrait être surpris de la générosité des Québécois.
Oui, oui, je pense qu'on est, quand même un peuple généreux, là. On le voit. Merci beaucoup. Il y a Karine qui me dit, une application sur cellulaire, très intéressante. Il faut l'acheter, mais une fois que c'est payé, on a un accès illimité. Ça s'appelle Visual Budget. Je ne sais pas si vous connaissez ça, Brigitte Ferg.
Non.
Il y a plusieurs applications sur Internet. Effectivement, les banques aussi ont développé. Voyez avec votre banque maintenant. Toutes les banques, ou à peu près, ont des applications. On sort sur votre téléphone. Moi, je fais tout. Là. Je photocopie des chèques, j'envoie ça. Je ne veux plus parler à la banque. Je déteste attendre en ligne de toute façon. Mais on peut trouver. Je pense que les outils sont disponibles.
Bien sûr.
Il faut faire un petit peu nos devoirs, Ghislain.
Oui, parce qu'on a beaucoup, autant dans l'immobilier, maintenant avec les cellulaires, on est capable de presque tout voir sur le locataire, sur ton budget, sur ton compte de banque. Tu es tout capable de gérer avec un cellulaire. Fait que, il faut être capable d'aller télécharger. Puis comme tu dis, il faut faire des recherches. Tu sais pas, tu cherches de quoi? Ben, il y a quelqu'un qui y a pensé à quelque part, je suis certain.
Ouais, je pense que la base, c'est de s'y intéresser. Hein?
Voilà.
Je pense que c'est ça. Parce qu'à partir du moment, puis, tu sais, quand les jeunes, ils parlaient de voyage, tantôt, Alexis parlait que ses amis voulaient voyager, tout ça. Quand vous préparez un voyage, vous faites des recherches, vous allez sur un moteur de recherche.
Ouais.
C'est la même chose quand vous voulez faire votre planification financière.
Très
exactement.
Bien
hey, merci beaucoup à tous les deux. Vraiment, je pense que c'est important d'avoir ce genre de conversation. C'est encore tabou, l'argent au Québec. Hein?
Tout à fait. Merci, Isabelle.
On va revenir là-dessus. C'est
merci
sûr, on a
Isabelle.
Toujours besoin de bons conseils. Merci à tous les deux.
C'est un plaisir.
On s'arrête ici, très courte pause. Et justement, après la pause, on va recevoir des champions. On va parler de sport et de décrochage. Restez là, tout le monde.